Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Jacques Henrik.
Un saludo muy especial, yo soy Alberto Salcedo Ramos de Colombia.
Je suis Alberto Salcedo Ramos de Colombie.
Et tous les deux, vous allez nous prouver à la manière de Lord Byron ce soir que la boxe est bonne pour le travail intellectuel.
Ping-pong, la culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture, ça sert à tout, même à s'empêcher de dormir. En ces temps vert sapin, parlons de couleurs qui font encore plus mal aux yeux qu'un pull de Noël, celle de la série animée Last Man. À l'origine, c'est une série en bande dessinée qui s'inspire à la fois des mangas japonais, sans les singer, et du récit sériel, car publié au rythme de 20 planches par semaine. Co-scénarisé et co-dessiné par Bastien Vivès, nouveau super anti-héros de la BD française, qui est en quelque sorte le showrunner de Last Man. Une série en BD qui, après une campagne de financement participatif réussie, est devenue une vraie série animée sur France 4, mais attention au programme de la boxe, des gangs, une secte religieuse et un vrai langage des bas-fonds. Last Man se situe dans une mégalopole du nom de Paxtown, qui, contrairement à ce que son nom indique, est une ville de violence et d'inégalité rongée par la mafia. Ici, dit-on, les emmerdes sont aussi inévitables que les lois de la nature. Et le héros, Richard Aldana, boxeur démerdard pour qui la boxe n'est ni un sport ni une passion, mais un répulsif à relou, va vite s'en rendre compte.
Ça te dérange si je squatte ton arrière-salle encore quelques semaines? Le temps de me retourner?
Tu montes pas l'air, toi! Ok, si t'arrives à me placer un uppercut sur le ring maintenant, tu peux rester un mois de plus, deal.
Tu vas en prendre pour 6 mois dans les dents, papy. Comment un croulant comme toi peut bouger aussi vite?
Ça s'appelle de la boxe, Richard. T'es peut-être un sacré cogneur, mais en boxe, t'es une vraie pucelle.
Et c'est reparti.
Parfaitement, t'as de l'or dans les poings. Mets-toi sérieusement à l'entraînement, mec. Tu sais combien ça palpe pour un match en pro?
Faire le guignol en slip? Non merci, papy. J'ai encore un peu d'amour propre.
T'es juste un putain de fainéant.
Last Man, série animée 100% française, papy. Rappel à ceux qui l'auraient oublié, comme dans le cas du récent Sausage Party, que oui, l'animation, ça n'est pas que pour les enfants. CF le dessin animé Fritz the Cat en 1972. Last Man, interdit aux moins de 12 ans et même aux moins de 16 pour le dernier épisode, a été diffusé du 22 novembre au 16 décembre dernier. C'est une réussite de 2016. Je vous la conseille en replay et vous devriez la partager pour peupler les nuits de héros haut en noirceur.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping-pong.
Que font ces écrivains sur les gradins des arènes, autour des rings? L'avant-garde littéraire est là, se relaie. Apollinaire, Picabia, puis Bataille, Léris, Griol, tous trois présents au cirque d'hiver, où ils assistent au combat de Panama Al Brown contre Roger Simander. N'y sont-ils qu'en question du but de la rencontre, à savoir financer, sur la sollicitation de Georges-Henri Rivière, le cofondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro, futur musée de l'homme, l'expédition anthropologique française Dakar-Djibouti. Et ces habitués des salles de boxe que furent Swift, Keats, Jack London, Tristan Bernard, Jules Renard, Colette, Brecht, Sandrars, Hemingway, Morand, Norman Mailer, Joyce Carol Oates. Que cherchent-ils? Avec quelles muses et quels anges virevoltants au-dessus des rings espèrent-ils le contact en venant se mêler à des foules grondantes? Et ceux qui ne se sont pas contentés d'être des témoins fascinés, qui ont repris avec Byron l'injonction de Démosthène, l'action, l'action, abandonnant les mots pour les poings, grimpant sur les rings et enfilant les gants. George Bernard Shaw, Arthur Conan Doyle, Arthur Cravan, Henri de Monterland, Jacques-Alain Léger, Frédéric Roux, Pierre Jourde, abandonnant les mots pour les poings, puis retrouvant les mots pour dire les poings. Cet art limpide qu'est la boxe, où l'intelligence inspiratrice et ordinatrice affleure sous chaque geste, peut donner aux écrivains une bonne leçon.
un extrait de boxe, lu par vos soins. Jacques-Henrique, vous faites justice vous-même, comme on dit parfois, sur les rings. Votre essai boxe, donc paru au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, a reçu très récemment le prix Médicis de l'essai. Et c'est donc une façon, de, comme on noue des bandes sur les poings des boxeurs. Vous avez noué à la fois l'histoire de la boxe, l'histoire de ces écrivains fascinés par la boxe et puis votre propre histoire. Donc on peut rajouter votre nom à cette liste d'écrivains d'avant-garde qui se piquaient de boxe. Et puis il y a un moment dans votre essai où vous insistez sur le fait que les Grecs anciens avaient deux mots pour dire le combat. Il y avait polémos, ce combat où tous les coups sont permis, et puis l'agone, l'affrontement codifié, cet art limpide qu'on retrouve donc dans le sport et dans la boxe. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui différencie, non pas le polémos et l'agone, mais la boxe et la bonne littérature. C'est qu'en littérature, à la différence de la boxe, tous les coups sont permis ?
Écoutez, tous les coups sont permis, il y a quand même des lois. Il y a des, comme vous savez, des règles pour la boxe. C'est les fameuses lois du marquis de Queensberry. Mais il y a aussi des lois pour la littérature. Par exemple, la diffamation tombe sous le coup de la loi. Donc on a quand même des règles. À l'intérieur de ces règles, il faut se donner le plus de liberté possible. Enfin, moi, ça a toujours été mon cas. C'est-à-dire que tout ce qui était d'ordre de la censure a toujours trouvé chez moi un ennemi farouche.
Et vous dites qu'il n'y a pas de morale en littérature.
Il n'y a pas de morale en littérature. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis un grand admirateur de Céline, alors que, jeune militant communiste, ça aurait dû être l'horreur pour moi, Céline. Ben non, voilà. Donc, je prends cet exemple parce qu'il est vraiment caractéristique de la liberté qu'on
vous
peut se donner.
Vous aimez même Bagatelle pour un massacre.
Et j'aime même Bagatelle pour un massacre, absolument.
Mais alors cette différence entre boxe et littérature, parce qu'on peut sans doute pas, au terme de votre essai, les associer, les lier totalement.
Moi je sais que quand j'ai rencontré Jean-Marc Mormec, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais toi avec tes livres ?» Il avait jamais lu évidemment mes livres, alors je lui ai dit… Pour être très simple, j'ai dit, écoute Jean-Marc, je fais à peu près ce que tu fais toi, seulement évidemment, les coups que je donne et les coups que je reçois sont pas de même nature. Cela dit, ils peuvent être pour des écrivains aussi des coups très durs. Je ne vais pas rappeler toutes les biographies d'écrivains qui se sont retrouvés en prison, voir ce qui se passe aujourd'hui en Turquie ou ailleurs. Je veux dire, et ce qui se passait par exemple en Union soviétique à une certaine époque. Donc, l'écriture n'est pas un art innocent. Donc, on prend des coups aussi. Cela dit, je me méfie quand même d'un certain romantisme qui a l'air de laisser entendre que dans le fond, on risque autant notre vie comme écrivain. Vous savez,
il y a faites allusion à Michel Léris.
Oui, parce que Michel Léris,
comme la tauromachie.
Michel Léris disait, mais écrire, c'est comme le torero devant la corne du taureau. Sauf que, comme je le précise, c'est que Michel Léris, qui était un homme très honnête, a dit attention, je parle de l'ombre de la corne du taureau. C'est quand même, bon, c'est vrai, on donne des exemples de grands écrivains comme Artaud qui sont devenus fous, qu'il a fallu soigner, etc. Est-ce que c'était l'écriture qui les rendait fous? Je crois pas. Je crois qu'au contraire, l'écriture souvent est un moyen pour eux de se sauver. Donc, n'exagérons pas. On n'est pas sur un ring. On prend pas des coups physiques. On sort pas avec la tête complètement défoncée et on ne risque pas ni la mort, ni le gâtisme, enfin, ni tout ce qu'ont connu les boxeurs. Et notamment ce boxeur dont j'ai découvert un peu l'existence, de Kid Pambele, dont le nom d'ailleurs m'a beaucoup intéressé parce que...
Qui s'appelait j'ai Antonio vu Cervantes.
Ah non, mais attendez, il s'appelait Antonio Cervantes. Et puis,
c'est
je
pas
sais
mal
pas,
pour plus, la littérature.
Attendez, plus Orozco, il me semble. Parce que je ne sais pas, c'était le nom peut-être de sa femme. Mais enfin, s'appelait du nom d'un grand écrivain Cervantes, plus d'un très grand peintre, que je considère un très grand frestiste comme Orozco. Je trouve qu'on peut commencer bien dans la vie. Bon.
Alberto Salcedo Ramos, donc c'est vous qui publiez L'or et l'obscurité, l'histoire de ce roi, donc ce Kid Pambélé, hein, comme il y a d'ailleurs des dynasties de Kid, vous le rappelez très bien Jacques-Henrique, hein, Kid Marcel, Kid Francis, Kid Charles, et ben Kid Pambélé, ce sera lui le premier champion du monde de boxe colombien en 1972, on va y revenir tout à l'heure. Pour vous, il y a dans l'onomastique, dans ce nom, Antonio Cervantes Kid Pambélé, quelque chose comme ça qui le destine à une vie romanesque.
Antonio Cervantes Kid Pambélé fue el primer
campeón mundial. Tony Cervantes, Equipe Pembélé, c'était effectivement le premier champion mondial de Colombie. C'est un homme qui est devenu fou avec la victoire qu'il a eue.
Estaba oyendo con mucha atención.
Moi, j'entendais avec beaucoup d'attention la liste d'écrivains que vous avez évoqués, Jacques. Mais je dirais aussi Cortázar, il faudrait le rajouter, parce que lui aussi, il a beaucoup écrit et très bien sur la boxe. Et je dirais aussi le nom d'un immense narrateur des États-Unis, Ring Lardner, et auquel Hemingway a reconnu comme maître dans ce type de récit. Et moi, je dirais que ce qui fait que la boxe soit un sport si beau pour nous qui écrivons, c'est le sport qui montre le mieux la condition humaine. Parce que dans la boxe, on ne peut pas faire collective un échec.
La derrota es individual.
C'est un échec toujours individuel d'une personne. Le fait de ne pouvoir la faire la rendre plurielle, de la partager avec d'autres, la fait encore plus lourde et douloureuse. Donc la boxe, en plus, c'est le seul sport dans lequel
le
sportif est presque nu. Il a le torse nu.
Et
dans cet élément, moi, je vois une métaphore avec la nudité originaire du premier homme.
Jacques-Henri...
Oui, moi, j'hésite même à parler de sport. Je pense que la boxe n'est ni un jeu, ni un sport. Un sport, en général, d'abord, c'est collectif, pas forcément, mais il n'y a pas on ne met pas en cause et en danger sa vie. Le rapprochement que moi je fais dans mon livre, peut-être, ça serait plutôt avec le torero, avec la corrida. Bon, sauf qu'évidemment, là, il y a mort, c'est un animal et un homme, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche.
Parce que là, c'est aussi en bon colombien, oui, apprécié fortement.
J'ai compris qu'il aimait beaucoup la corrida.
Quand période de corrida à Carthagène, il était dans l'arène.
Oui, oui, et oui.
Joyce Carol Oates, oui. Dice que el boxeo,
qui écrit un essai sur la boxe.
Es el único deporte,
il dit que la boxe est le seul sport où le terme et le verbe jouer n'est pas utilisé. C'est un sport, mais ce n'est pas un jeu. Il y a une différence entre le sport et le jeu.
Mais est-ce qu'on peut rappeler, puisqu'on est avec Joyce Carol Oates, profitons-en, parce que ça fait toujours un bien fou. Chaque combat est un drame sans parole, unique, condensé, écrit-elle dans son essai sur la boxe. Vous avez relevé, vous, Jacques-Henrique, cette puissance romanesque de l'existence de Fabrice Benichoux, que vous classez dans la catégorie des poor guys, les poor guys chez les boxeurs. Une existence qui tient à la fois du conte de fées, du récit épique hugolien, de la farce à la Chaplin, d'une virée à la Dante, dans le circuit de l'enfer. En quoi la boxe est le condensé des personnages, du romanesque, du tragique.
Pour un écrivain, pour ceux que je considère comme des écrivains, le sujet majeur tout le temps, c'est la condition humaine, c'est la tragédie humaine. Enfin, on écrit avec ça. Ça peut être sous une forme de fiction, sous une forme autobiographique ou tout ce qu'on voudra, mais c'est ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans la boxe et dans la biographie des boxeurs. D'abord, il y a le risque extraordinaire que je ne trouve pas évidemment dans la biographie des écrivains. Il y a cette réussite, cette gloire absolument extraordinaire, et puis d'un seul coup cette déchéance terrible avec des biographies comme celle de votre boxeur.
Et là, Kit Pembélé.
Oui, moi je pourrais aussi en citer une liste aussi de gens qui ont terminé des grands boxeurs qui a fini en train de nettoyer les vitres de l'ORTF.
Un ici autre, à la maison de la radio.
Ouais. À la maison de la radio, un autre qui a été qui balayer la gare de Lyon, qui était porteur gare de Lyon, un autre qui balayait les chiottes, je ne sais plus où, un Américain, enfin, des gens complètement oubliés. Bon, ce qui n'est pas le cas quand même, ni des écrivains quand même, même si certains ont fini tragiquement, ils ont quand même une aura, aujourd'hui, ou les toreros aussi d'ailleurs, qui ont une sorte d'aura, mais les boxeurs, ces gens étaient complètement oubliés, ils avaient été archi célèbres. Et vous parlez de
Fabrice Benichoux.
De Fabrice Benichoux. Faut voir où Tiozzo, la biographie de ces gens.
Tiozzo qui a signé SDF.
L'argent qu'ils ont gagné, les sommes fabuleuses, vraiment. Et en même temps, la célébrité. Et puis en quelques jours, c'est le cas de Tiozzo, mais c'est le cas de Benichou aussi, d'un seul coup, plus rien. C'est-à-dire la misère totale, tout perdu, DSDF, enfin, c'est des biographies absolument extraordinaires.
Mais alors cette
Donc
dimension...
ça intéresse évidemment un écrivain, parce que c'est la tragédie humaine, là, en voilà des cas, là.
Donc il y a du romanesque, il y a du tragique et de la gloire, il y a l'or et l'obscurité, pour reprendre le titre original et le titre français de votre biographie de Kid Pambélé, Alberto Salcedo Ramos. Jacques-Henri revient encore sur cette comparaison entre le torero et le boxeur, et vous parliez, Alberto Ramos, de la nudité du boxeur. Et Jacques-Henri, il tient aussi dans la déchéance d'un torero, il y a de la dignité, il y a de la gloire parce qu'on escamote le corps, et dans la mort d'un boxeur, en revanche, dans sa fin, dans sa décrépitude, il y a de l'obscénité. Est-ce que faire un livre, comme vous l'avez fait sur Kid Pambélé, sur ce champion déchu, c'était pas seulement faire du romanesque, mais aussi vous affronter à l'obscénité?
Hay un elemento que me llama mucho la atención.
Il y a un élément qui me frappe.
En Estados Unidos había una gran
aux États-Unis, il y avait une très grande lutte de race raciale,
une ségrégation à los
negros. Énorme ségrégation des noirs.
El boxeo era un deporte de
desesperados. Et la boxe, c'était le sport des gens qui étaient sans espoir, et c'était surtout les noirs.
A los norteamericanos siempre les ha gustado jugar al policía bueno
y al policía malo. Ont toujours joué au bon et méchant policier, les deux.
Cuando había grandes combates de
Lorsqu'il y avait des combats de boxe,
peleas no se podían promocionar,
on ne pouvait pas promouvoir les luttes, les combats,
la lucha racial,
en utilisant la clé raciale, parce que c'était déjà de noir.
Entonces se usaba la idea del
Donc
negro
on parlait
bueno
de l'idée du noir bon et méchant, le gentil et le méchant.
Cuando Ali surgió,
et quand Ali est apparu,
Mohamed
Ali, identificado como el negro malo.
Alors il a été identifié comme
Porque
le noir
era,
méchant, parce
era,
que
era muy hablador,
il parlait beaucoup.
C'est à l'époque de Malcolm X,
como decía el poeta Leroy Jones.
Et comme Leroy Jones disait, le poète,
Mohamed
Ali
a
refusé à être
honorario.
Le blanc honoraire d'endosser ce rôle.
Cuando ya ganaban un título, los convertían
lorsque,
en blancos honorarios.
Parce que lorsqu'il gagnait des combats, il devenait entre guillemets des blancs honoraires.
A mí lo que me hace más feliz de escribir
Moi, ce qui me rend heureux d'écrire sur la boxe, c'est qu'on dirait qu'on parle de deux hommes qui se donnent des coups. Mais en vérité, je parle de la société. Je parle de
la culture,
de la culture, je parle de mon pays, je parle de l'humanité en somme. Donc je pourrais raconter l'histoire d'Amérique et à partir de ces boxeurs, en parlant d'eux.
Mais c'est aussi l'obscénité de la condition humaine, pour revenir sur ce mot simplement.
Bueno, hay un crítico que se llama John Estulian.
John Estulian, c'est un critique.
Que dice que los aficionados
et il dit que ceux qui aimons la boxe, nous sommes des voyeurs. C'est-à-dire que nous regardons, nous penchons pour regarder une autre façon, une autre forme de nudité.
Boule de cuir tourne dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, aux déesses de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire croire qu'il est de champion. Box, quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box.
Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on dépend de mes mains, quitte marin, viens me voir, ça ira mieux demain.
Des hypercutes de jazz, des punchs bien lancés par Nougaro. On est en 1968, quatre boules de cuir à l'instant. Il dit qu'il a abordé la chanson, il est arrivé sur le ring en 65 comme un poète, un peintre, parce qu'il s'est dit tant mieux si je suscite l'audience, sinon tant pis. Nougaro, c'est quelqu'un que vous citez dans cet essai Box, Jacques Henrique, précisément les paroles des quatre boules de cuir. C'est un essai extrêmement disparate. De toute façon, vous en avez l'habitude, des listes, des romans, des essais. Vous avez collaboré à la revue Telle Quelle, vous avez cherché à renouveler la littérature. Et là, il y a une dimension supplémentaire dans cet essai. C'est votre méditation métaphysique. On pourrait sous-titrer méditation métaphysique sur le chaos. Oh, on tombe par terre. Qui décide lorsqu'on tombe par terre? Est-ce que c'est l'esprit, l'âme ou le corps? Vous faites appel à Saint Augustin. C'est le propre de l'âme de souffrir. Est-ce que le corps souffre? Est-ce qu'il ne souffre pas? On va réfléchir à des notions philosophiques comme le bien, le mal, la guerre, l'amour, Dieu, les prostituées. Grande notion philosophique. C'est une bataille spirituelle que le combat que vous menez dans ce livre, un peu à la Bernanos. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme ça de si métaphysique qui vous a entraîné dans cet essai sur la boxe, ou est-ce que c'est finalement un autre livre que vous écrivez en même temps?
Non, mais il faut peut-être rappeler qu'en 1981, je crois, j'ai publié un essai sur la peinture qui s'appelait « La peinture et le mal », où je, à la suite de Georges Bataille, qui lui avait écrit un essai sur la littérature et le mal, où je m'intéressais sur la notion du mal, et notamment dans une perspective de catholique, au sens où Baudelaire entendait le catholicisme. Bon, donc c'est pas nouveau chez moi, hein, cet intérêt pour le bien et le mal. Et dans le combat de boxe, je retrouve un petit peu cette question-là du bien et du mal. Tout à l'heure, vous évoquiez que Ali a représenté un moment le mal. Vous vous souvenez? Bon, c'est vrai. D'abord parce qu'il y avait du racisme, il y avait ce problème de qu'il n'était pas allé faire son service militaire. Donc pour toute une partie de l'Amérique, c'était vraiment. D'ailleurs, il a payé. Bon, l'image après de Mohamed Ali, elle a changé. Ça serait plutôt l'image du bien, c'est-à-dire maintenant c'est le héros, c'est la victime du racisme, etc. Bon. Où est le bien, où est le mal? Moi, je vais ajouter une petite chose, parce que souvent on l'oublie dans la biographie quand même de Mohamed Ali, c'est que Mohamed Ali, quand même, il y a eu du racisme contre lui, mais il y a un contre-racisme quand il s'est converti à l'islam. Je rappelle que quand même, il a dit une chose qui était quand même assez horrible, ce qui est toute femme blanche qui sortait avec un noir méritait d'être tué, et tout homme blanc qui sortait avec une femme blanche méritait d'être tué. Donc, je pose la question, là, où est le bien, où est le mal? C'est pas si simple.
Ils avancent ensemble, comme sur un match, alors, un ring de boxe.
Mais à cet égard, Jacques Henrique, vous posez cette question, qui est qui? Vous tournez autour de cette notion de l'ennemi, bien sûr, dans le combat de boxe, mais aussi dans l'existence, et comme le rappelait Mathilde, jusque sous le soleil de Satan. Vous faites une sorte, d'ailleurs, de shadow boxing à la Bernanos, ça finit un peu comme ça, et je voulais vous demander si in fine on ne boxe pas toujours contre soi, et même peut-être plus profondément contre l'autre, viscéralement étranger, qui est à l'intérieur de nous.
Je ne peux qu'approuver ce que vous dites, hein. C'est d'ailleurs, c'est pas étonnant si, parlant de la boxe, je suis très vite amené à parler de moi. Et c'est très curieux, l'écriture, et notamment la boxe à laquelle je ne connaissais rien, hein. Faut bien savoir que je pense que vous êtes, vous, vraiment un spécialiste
Alberto
de la boxe.
Alberto Ramos.
Oui, que moi je ne suis pas, hein. Donc, mais ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est des choses que j'avais oubliées de ma vie, complètement dérisoires, dont cette petite histoire qui va se développer tout le long du livre, où je parle de moi et où j'ai cette espèce de traumatisme, mais traumatisme pour une histoire complètement idiote d'un petit môme qui me fout un coup de poing.
Un certain Ducon-Lamolle.
Un type qui s'appelle Ducon-Lamolle, qui est un abruti. Bon, et j'avais complètement oublié ça. Et c'est en commençant à écrire ce livre que c'est revenu.
Ça vous a frappé.
Et d'un seul coup, ça a pris une force. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que ça n'a pas été un traumatisme de ma vie de ne pas pouvoir répondre par le physique à une agression physique? Et est-ce que c'est pas là que ma carrière d'écrivain peut-être a commencé, où je me suis dit, je suis trop nul pour taper avec mes poings, et donc bah, je vais taper avec les mots. Et alors, il paraît que je suis pas trop mauvais non plus dans la polémique. La bagarre intellectuelle me va assez bien. Mais bon, voilà. Mais en même temps, j'ai une grande nostalgie. Moi, mon rêve, ça aurait été d'être costaud comme Mormec. Et puis, les gens qui m'emmerdaient dans le milieu littéraire, ça aurait été de leur régler leur compte, pas du tout avec des mots, mais avec mes poings. Voilà, ça s'est pas passé comme ça, ma vie.
Il y a ce récit avec Ducon-Lamolle et ce membre fantôme qui ne vient jamais et qui est peut-être donc cette main d'écrivain qui va naître à ce moment-là, évidemment. Et finalement, pour revenir à la question de Martin, Polémos et Agone, le combat qui est réglé, le combat de l'Agone qui est réglé, le combat Polémos où tout est permis, est-ce qu'en littérature, vous n'êtes pas justement dans une logique de Polémos? C'est-à-dire,
oui,
je vais enfreindre toutes les règles.
Bah, tout à fait. Tout à fait, voilà, il n'y a pas de morale, et donc là, cette notion de bien et mal, de bien et de mal, en effet, n'a plus de sens.
Mais sur le plan formel aussi.
Bah, sur le plan formel, ça implique alors là peut-être aussi une forme littéraire qui soit pas la forme traditionnelle du récit. Moi, j'ai toujours été très 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 opposé au roman traditionnel, dont je pense qu'il est aujourd'hui très 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 malade. De même que la boxe, pensiez-vous, était très malade en Amérique latine et en France aussi. En parenthèse, je suis heureux de voir que pour ce qui est de la France, ça n'est plus le cas. La victoire des jeunes Français aux Jeux Olympiques ont redonné une espèce de force à la boxe. Et il paraît que dans les écoles maintenant, tous les gamins à qui on demandait qu'est-ce que vous voulez faire comme sport, tout le monde répond la boxe. Et tous les clubs de boxe croulent sous les demandes de gens qui veulent boxer. Donc voilà, la boxe quand même, je pense, est sauvée. Voilà.
Et le style?
Alors le style. Ben oui, je reviens au style. Moi, le roman, si vous voulez, traditionnel, avec une histoire qui se déroule comme ça, pour évoquer notamment la boxe, c'est quelque chose, moi, qui ne correspond pas. Je trouve qu'au contraire, il faut avoir cette forme que je donne à mon livre, c'est-à-dire des chapitres assez courts, des choses qui se mêlent, des citations qui interviennent au milieu de mon développement, etc. C'est-à-dire une forme éclatée, voilà, éclatée comme les choses qui se passent sur un ring, enfin, en quelque sorte, voilà.
C'est une école de la vie. Vous prenez des coups, on vous humilie. Mais en même temps, tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. C'est-à-dire, dans l'humiliation, dans les coups que vous avez pris, des fois quand vous tombez par terre, parce qu'on vous a frappé, aux yeux du monde, vous arrivez à vous le relever, la tête haute, et vous repartez. Est-ce que c'est pas ça la vie?
1, 2, 3. Jean-Marc Mormec, qui est le héros de boxe, on en reparlera, du l'essai donc hybride de Jacques Henric. Nous avons avec nous Alberto Salcedo Ramos, qui nous parlera d'un autre héros, le sien. C'est une biographie sur Kid Pambélé, et ce sera dans Ping Pong toujours.
Ping Pong, la culture sans limite.
Place à présent, avant la reprise entre les cordes du ring, aux 6 cordes des guitares, à celles d'acier des pianos et aux cordes vocales des chanteuses et chanteurs afro-américains dont l'histoire nous est contée en 12 disques vinyles ou 4 doubles CD, 130 morceaux réunis par Thomas Blondeau sur la compilation Rhythm and Soul Basics. Des Delta Cats à Frank Ocean, de James Brown et Nina Simone à Erykah Badu et Salt-N-Pepa, en passant par Chic, Marvin Gaye, Donna Summer ou Rick James, Rhythm and Blues, Soul, Funk et R&B de la nouvelle école déboulent du traîneau d'un Santa Claus noir et fier, orné de boules à facettes. Et puisque de boxe il est question ce soir dans Ping Pong, blottissons-nous un instant dans les bras d'Otis Redding.
These arms are mine. They are lonely
arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you. And if you would let them, oh, hold you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning, burning for wanting you.
L'un des 130 titres de la compilation débordante comme la hôte du Père Noël, Rhythm and Soul Basics, édité par MCA et Universal.
Ping pong. La culture sans limite.
Y ahora se saluda con el campeón. Con respecto a ese saludo, Peppermint Fraser y Pambelé son amigos desde 1966, cuando ambos vivían en la misma casa de huéspedes en Caracas, donde ambos estaban cumpliendo compromisos boxísticos. Pambelé se quedó radicado en Venezuela, pero Fraser peleó con el Guacharaco.
Les champions se saluent avec respect. Il faut dire que Peppermint Fraser et Pambelé sont amis depuis 1966. Ils se sont connus à Caracas, au Venezuela. Ils sont amis en effet, mais là-haut, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Chacun essaye de faire du mieux qu'il peut pour gagner le combat. Peppermint est encore tombé. 4, 5, 6, 7, 8, il se relève. S'il retombe à terre, le combat est terminé. Ça y est, le combat est fini. Pambelé gagne par KO.
Kaout, qui est Kaout dans cette histoire? Il s'agit de Peppermint Fraser, qui a été ami, comme le dit le commentateur, d'Antonio Cervantes, alias Kid Pambelé. Nous sommes donc dans cette victoire historique, le 28 octobre 1972. On a fêté récemment en Colombie cet événement. La Fédération colombienne de boxe dit que Kid Pambelé est le meilleur boxeur colombien du XXe siècle. On dit même que c'est le meilleur sportif colombien du XXe siècle. Et c'est votre héros, Alberto Alberto Salcedo Ramos dans ce livre « L'or et l'obscurité » publié aux éditions Marchiali. J'aimerais que vous nous décriviez à votre manière ces images que vous avez peut-être revues pour préparer votre enquête sur la chute du roi Pambélé.
Quand Pambélé peleó contra Peppermint Fraser.
Eh bien, lorsque Pambélé a combattu Peppermint Fraser,
nadie apostaba,
personne n'était pensait qu'il allait s'en sortir.
Y la pelea no fue televisada en Colombia.
Et le match n'a pas été vu à la télé en Colombie.
Ni siquiera sabíamos que existía
On savait Pambélé. Même pas que Pambélé existait à l'époque.
Porque
Pambélé Et cela parce que Pambélé est parti de Colombie comme
Caracas,
dans un plein échec, un personnage inconnu. Et au Venezuela, ils l'ont rendu champion mondial. C'est comme ça qu'on s'est aperçu de qu'il avait gagné le lendemain, le surlendemain. Et on a vu le match, le combat, on l'a vu juste après. Et je l'ai toujours en tête, je l'ai en mémoire, je l'ai emmagasiné.
Pambélé se réinventa à
Alors, Pambélé a pu se réinventer lui-même par ses points, au travers de ses points.
Il
y a un écrivain mexicain,
Octavio Paz,
qui a parlé d'une comédienne de son pays, Maria Félix, en disant que Maria Félix est née deux fois. Le jour où elle est née, mais le jour où elle s'est réinventée elle-même. Et donc je pense qu'avec Pambélé, c'est exactement la même chose. Pambélé a pu se réinventer soi-même parce que la première vie qu'il a eue ne comptait pour personne. Donc il a commencé à avoir de l'importance d'être quelqu'un lorsqu'il a commencé à frapper et à gagner. Et ça, ce fut son meilleur moment. Le moment où il a gagné le titre de champion. Lorsqu'il était, il ne savait pas encore que chaque coup qu'il portait l'approchait à cette, vers le haut, mais aussi vers le nouvel échec qu'il aurait. Parce qu'il a commencé à gagner en même temps et à perdre. Il a commencé à s'habiller en or, il a commencé à s'habiller d'obscurité. Parce que lorsqu'il a commencé à gagner les combats, il est commencé à devenir un peu fou, et en devenant fou, il a commencé sa chute.
Et il se trouve justement à cet égard, Alberto Salcedo Ramos, que si Jacques Henrique, avec son essai intitulé « Boxe », finalement, prenant un pas de recul, s'asseyant sur son tabouret dans son coin du ring, après avoir écrit, se rend compte qu'il a peut-être signé un essai sur la question de la mort, vous, vous admettez, dans l'or et l'obscurité, que vous avez cherché à approcher la question de la folie. Et vous rappelez que cette psyché, cette folie, qui peut-être dès l'enfance est dans le corps et la tête de Kid Pambélé, sa difficulté à gérer ses émotions, c'est ça qui en a fait un aussi bon boxeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Pambélé fue buen boxeador.
Pambélé a été un bon boxeur parce qu'il avait très faim
et
il avait un physique magnifique pour la boxe.
Era muy sereno.
Il était très serein.
Era un hombre muy técnico.
C'était un homme qui avait un combat très technique.
Si yo le buscara un equivalente,
pour chercher un équivalent dans l'écriture,
lo compararía,
on pourrait faire des comparaisons avec
un écrivain
qui n'utilise jamais trop d'adjectifs, qui utilise toujours le mot juste, qui utilise très justement, très bien le langage, parce qu'il est beau, mais en même temps, on ne se rend pas compte. Il est beau et on ne se rend même pas compte qu'il est beau. C'est la beauté de l'économie, quelque part. Cette beauté d'un homme qui connaît tellement bien son métier qui ne semble pas orgueilleux ou excessif. Il a la beauté de la sobriété.
Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'approcher par les psychiatres ? Que ce soit au tout début, à l'orée de ce récit, l'or et l'obscurité, jusqu'à la fin, c'est les psychiatres qui vous donnent la clé de la beauté de ce Kid Pambélé.
C'est que moi je pense que Pambélé ressemble à Don Quichotte. C'est comme mon ami Jacques.
Antonio Cervantes, rappelons-le.
Antonio Cervantes, il a évoqué Cervantes. Et c'est pas pour rien que le nom de Pambélé, le nom de famille, soit Cervantes.
Pambélé
a dû lutter contre les moulins à vent.
Pembélé también andaba cabalgando en un caballo.
Il était à cheval, dans un cheval.
También estaba.
On peut le voir de cette façon. Il faisait un combat qui semblait perdu d'avance.
Si, c'est un Quijote.
Donc c'est un Quichotte de la boxe.
Alberto Salcedo Ramos, je voudrais que justement vous nous parliez de ce combat que vous avez eu avec ce Don Quichotte de la boxe, parce que c'est vrai qu'il y a un diagnostic au départ, on peut peut-être le rappeler, ce qui explique psychiatriquement la chute de Kid Pembélé, c'est qu'il a un trouble bipolaire affectif, héréditaire, qui est dans sa famille, donc il a des crises répétées qui seront aggravées par la consommation de drogue et d'alcool, et les femmes de mauvaise vie ou sur qui on peut pas compter, c'est toujours un petit peu la faute des femmes quand même, il faut le noter, mais voilà, donc finalement, c'est un trouble psychiatrique. Pourtant, on a envie de savoir plus, c'est-à-dire que ce diagnostic, vous l'avez dès le départ. Pourtant, vous voulez creuser davantage. Et vous allez mener un combat avec lui, parce que lui, il ne vous livre rien. Donc, comment vous vous êtes battu? Avec quelles armes?
Bueno, cuando yo me acerqué a Pembélé...
Lorsque j'ai approché Pembélé,
Pembélé
s'était déjà retiré de la boxe.
Cuando Pembélé fue boxeador, no
lorsqu'il
se
était boxeur, on ne connaissait pas encore le diagnostic.
Si
on avait su qu'il était diagnostiqué, il n'aurait pas pu être boxeur, en fait, parce que c'était un risque important. Le diagnostic a été connu bien après, des années plus tard. Moi, je raconte tout ça parce que ça m'intéresse justement de rendre justice à ce personnage. Car l'idée avait été faite de cette folie qui était apparue à cause de la drogue. Et pas qu'il était... c'est pas vrai, il n'est pas devenu fou par la drogue. Il avait un problème psychiatrique héréditaire, voilà.
Mais avec vous, dans l'échange?
À
un moment donné, il veut me donner un coup de poing, il veut me frapper, franchement. Je ne sais pas si vous
le
savez, c'est le moment où le personnage se rebelle à l'auteur. C'est comme si Raskolnikov avait pris une hache et tué Dostoïevski. Vous voyez? En tout cas, c'est quelque chose qui se voit à la fin du livre.
Mais
en général, je peux dire que ce fut un échange assez serein. C'était tranquille, un dialogue tranquille, dans lequel moi, je n'avais pas de risque moi-même. Je ne risquais rien, en fait, en écrivant sur Pembélé.
Et vous, Jacques-Henrique, vous, c'est votre essai boxe qui commence par votre... non pas confrontation, mais votre rencontre avec Jean-Marc Mormeck.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que votre essai, je l'ai dit, ça s'approche de la mort, mais aussi de la question du corps. Et c'est étonnant qu'en même temps, dans du corps de Jean-Marc Mormeck, d'emblée, dans votre essai, ce qu'on voit, c'est son dos. Oui. Ensuite, vous décrivez son visage lisse. Il y a comme quelque chose qui résiste, parce qu'ensuite, ce sont des figures défigurées de boxeurs qui se sont fait casser le visage sur le ring. Qu'est-ce qui vous a résisté, peut-être jusqu'au bout, dans votre tentative de voilà de cerner la boxe et de l'emmener dans les cordes et de la voir à votre portée?
C'est aussi l'image que j'avais du boxeur, moi. C'est-à-dire que l'image que j'avais jeune, c'était des boxeurs qui avaient le visage complètement défiguré, le nez cassé, les oreilles en chou-fleur, enfin bon. Et là, la surprise, c'est de voir des gens comme Mormeck, qui ont eu des chaos quand même, très violents. Pas une marque. Et moi, j'attendais de voir un boxeur que j'avais jamais vu de près, avec des énormes poings. Et qu'est-ce que je vois? Ce qui était le cas d'Al Brown, de boxeurs comme ça. Des mains de pianiste, des mains très fines. Très fragile d'ailleurs. Souvent, ils perdaient leur match avec cette fragilité. Moi, je voudrais revenir une seconde sur le livre d'Alberto. Ce que disait Alberto était très juste. C'est que ces boxeurs, Mormeck, par exemple, qu'on vient d'entendre là, c'est d'abord leur intelligence. Je crois qu'il n'y a pas de grand boxeur qui n'est pas intelligent. L'histoire de la grosse brute, ça n'existe pas. Et surtout, ce qui me frappe, c'est pour les gens qui écrivent sur la boxe, comme le livre d'Alberto, c'est leur écriture. Ça va faire bizarre que moi, soi-disant l'écrivain, je dise il y aurait des leçons à prendre sur des livres qui ont été faits par des journalistes, quelquefois. J'en ai lu beaucoup. Bon, c'est une écriture qui est directe, sans effet littéraire, sans métaphore. Vous savez, les écrivains, ils ont une petite tendance à se regarder dans le miroir en se disant attention, je vais écrire. Attention, là, c'est l'écrivain. Donc voilà. Bon. Or là, non. C'est-à-dire que c'est une écriture. Je pense, pour moi, qu'il y a des leçons à prendre sur ces livres-là. Bon, je pense qu'Alberto aussi est écrivain, mais son livre est un livre d'écrivain et de journaliste, c'est du style direct, et je trouve ça formidable. Et quand j'entends des boxeurs parler, ça devait être le cas de votre boxeur, mais quand j'entends Mormec parler, je me dis, mais c'est formidable. Quelquefois, vous parliez de Bénichou,
Bénichou, hein.
Ouais, les propos de Bénichou, ça vaut, je le dis, je crois, dans mon livre, ça vaut des maximes dialogues de morale des grands moralistes. Oui, absolument. Mais c'est extraordinaire. Alors, l'intelligence. Moi, je les envie.
Quand on est con.
Oui, je sais plus ce que c'est, mais
quand on est con, on parle la langue des cons, non, déjà.
Oui, quand on est con, on parle la langue des cons. Et sur ce plan-là, comme con, j'étais quand même bien préparé à la parler. C'est extraordinaire. Bon, et des comme ça, il y en a plein. C'est des petits bijoux.
Mais justement, un mot peut-être, Alberto Salcedo Ramos, sur l'écriture. Vous êtes documenté l'un comme l'autre. Hein. Vous avez visionné, vous avez enquêté, vous avez lu. Il y a un nom qui revient. J'ai trouvé qu'il avait de belles maximes. Il s'appelle Juan Gossein. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est le meilleur reporter de Cromo, un journal colombien qui va suivre Kid Pambélé partout. Il a de très jolies formules sur lui. Il parle d'un colosse qui décida de dynamiter sa propre statue. Pourquoi vous avez souhaité la rendre présente comme ça, cette langue de Juan Gossein?
A mí me gusta del boxeo, que es un deporte.
De la boxe, moi j'aime beaucoup le fait que c'est un sport qui permet de démontrer les oscillations entre l'ascension et la chute.
Porque Ícaro.
Icare est beau lorsqu'il croit qu'il peut voler, mais il est peut-être encore plus beau lorsque les ailes faiblissent et il tombe.
Il chute.
Moi, je voulais dire quelque chose que Jacques vient de dire, et c'est un truc sympathique que je voudrais commenter. Moi, je pense que vous aviez posé la question à Jacques s'il avait pu être boxeur, mais vous n'avez pas posé la même question. Et moi, je voudrais dire que j'aurais été un boxeur très mauvais. Parce que j'aime beaucoup écrire sur la boxe, mais pas forcément. Je me sens habile dans la boxe. Donc, sur ce livre, je fais un commentaire sur un boxeur qui était aussi si mauvais qu'il mettait les annonces publicitaires dans les chaussures, sur le bas. Sur la semelle de la chaussure. C'était la seule façon que l'annonce puisse être vue. Lorsqu'il tombait, c'était la façon de montrer justement l'annonce publicitaire. Mais je pense que les écrivains sont encore plus violents que les boxeurs. Woody Allen, par exemple, il a comparé les poètes avec les mafieux, carrément. Parce qu'il disait que les poètes et les mafieux s'entretuent entre eux.
Et se repaisse de regarder les boxeurs s'entretuer sur le ring.
Les écrivains sont plus violents encore que les boxeurs, parce que le boxeur te frappe au corps et le combat finit lorsque on entend la fin. En revanche, les écrivains parlent toujours mal des collègues, ils font des critiques, ils ont une mauvaise foi, on veut dire, avec de mauvaises intentions, et notamment, ils font des coups tordus.
Mais à cet égard, Jacques Henrique, il y a à la fois, quand il y a cette attaque virulente, ces directs et ces jabs envoyés par Alberto Ramos aux écrivains, vous faites cette citation, qui donc voudrait écrire s'il pouvait faire mieux? Et puis, en revanche, pour le match retour, vous citez McGuigan, Barry McGuigan, le cyclone, qui a un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi est-ce que vous êtes boxeur ?» Lui, le poids plume, il répond « Parce que je ne peux pas être poète, je ne sais pas raconter des histoires. »
Voilà. Et moi, c'est le contraire. J'aurais bien voulu être boxeur, mais je ne savais pas boxer, donc j'ai fait des livres avec des mots.
Mais là, on est dans la violence, on est dans la dureté de ces expériences, la folie, la mort. Il faut dire quelque chose d'Eros qui plane toujours. Ah, oui, on a le boa constrictor de Kid Pambélé qui s'exhibe pour parvenir à pas être trop lourd lors de la pesée en Thaïlande. Il baisse son short, enfin il enlève son short et il impressionne le public. Et chez vous, il y a évidemment tout cet enjeu-là, que ce soit avec la bite de Sonny Liston, l'impuissance de Jake LaMotta et puis les jouissances de Jacques-Alain Léger.
Ah oui, absolument. Non, mais je crois qu'on aurait dû parler d'abord de ça, parce que je pense que le côté sexuel est important. Il suffit de les écouter, les boxeurs. Quelles sont leurs insultes?
c'est « va te faire enculer ». Alors, le nombre de fois où on a le mot « enculé », c'est absolument extraordinaire. Bon, je ne vais pas faire de la psychanalyse
sur le ring.
Facile.
Et c'est Joyce Carol Oates qui a justement relevé l'érotisme des rapports entre les boxeurs.
Ce ne sont que des insultes sexuelles. Bon. Et puis, en effet, il y a les cas de ces boxeurs qui étaient des durs comme Jack LaMotta, le costaud avec les prostituées,
le taureau du
etc. Bronx. Et puis un jour, il se trouve avec une jolie petite minette comme ça, toute simple, toute timide. Craque la panne, plus rien, ça y est, terminé. D'où la dépression en plus. Bon, donc on voit quand même que c'est très important. Et moi, je, parmi les citations que je fais, parce qu'il y a beaucoup de citations littéraires, je voudrais quand même en signaler une qui est la plus longue et que je trouve magnifique. C'est l'écrivain Roberto Bolaño dans Les putains meurtrières. Il y a tout un passage à partir duquel, d'ailleurs, je développe moi et qui est vraiment là qui touche, à mon avis, vraiment très profondément la question sexuelle, et je pense que c'est très lié à la boxe.
Et la violence faite par les boxeurs aux femmes.
Et la violence. Alors là, prenons le cas évidemment de Tyson. Bon, violeurs, etc. Parce qu'en plus, c'est pas des enfants de cœur, ces boxeurs. Hein. Beaucoup ont été des tueurs, des violeurs, des bagarreurs, des drogués, etc. Là aussi, le bien et le mal, hein. Mon Dieu.
Bon. On apprend quand même, il faut le signaler dans boxe, qu'il y a aussi des gens comme Charles Maurras hein, qui vont aller se faire greffer des couilles, alors, il faut le dire, des couilles de singe chez un docteur spécialisé en la chose. Il en aura deux, lui, hein, alors deux. Que bon, Sacha Guitry se contentera d'une seule. Mais enfin, la liste est complète. Il y a même un soupçon qui pèse sur Sandra. Ça fait partie des réjouissances de ce livre boxe, entre autres. Mais puisqu'on est dans la sexualité, restons-y. C'est toujours efficace pour l'audience, érectile, évidemment. Un mot, Alberto Salcedo Ramos, sur la sexualité aussi de ce Kid Palombé qui disparaît. Sa famille le cherche partout pendant 3 jours. Où est-il? Avec une femme. Les prostituées le croient à la table avec des amis de la boxe. Les amis de la boxe le croient avec les prostituées. Il y avait quelque chose comme ça de très fort, de très sexuel aussi dans la vie de Kid Palombé.
Sí, los boxeadores suelen ser desordenados.
En effet, les boxeurs sont très désordonnés du point de vue sexuel dans les moments où ils ne sont pas soumis à la pression du combat ou de l'entraînement. Pambélé a eu 4 femmes avec des enfants. Et c'était un homme très désordonné, dans une vie très désordonnée. À un moment, sur la fin, l'entraîneur dit que Pambélé regardait des films porno beaucoup. Et on parlait d'une époque où l'Internet n'existait pas, la pornographie n'était pas consommable de façon discrète dans un coin et tout seul. Donc il fallait aller dans un cinéma spécialisé.
Le sexe.
Dans le cas des boxeurs, le sexe est toujours très désordonné, encore plus que pour les footballeurs. Parce que les footballeurs, quelque part, bon, ils finissent pas complètement crevés ou dans un bloc opératoire.
Mais est-ce que c'est ordonné chez les écrivains, le sexe?
Les écrivains aussi peuvent être très désordonnés, je crois. Mais je voulais dire. Vous avez parlé des métaphores du boxeur, et il y en a certaines que j'adore.
David Remnick, c'est
l'éditeur du New Yorker, a écrit une biographie très belle de Muhammad Ali.
Et
à un moment donné, il décrit un boxeur qui est KO et qui est en train de se déplacer sur les genoux, sur le ring. Le coup lui a arraché le protecteur buccal.
Et donc,
il essaie de toucher, de le trouver par terre où est-ce qu'il est.
Et
David Remnick le décrit comme un homme qui vient de se réveiller et essaye de cacher, disons, d'arrêter le réveil. Muhammad Ali décrit lorsque Norton lui a frappé dans la mâchoire. Il dit qu'il a senti à ce moment-là que la mâchoire, quelque chose du visage était parti.
Et
il s'est imaginé un concert de violon fait par des crocodiles. Et qu'il n'y avait pas d'êtres humains tout autour, mais des crocodiles qui jouaient des violons. Donc je trouve ça merveilleux.
C'est un poète. Hein.
Sonny Liston.
C'est le chaos métaphysique dont parle Jacques-Henri justement dans son livre. Eh bien, sachez en tout cas que si vous êtes écrivain ou boxeur, eh bien, il faut toujours avoir son sexe avec soi, car un soldat ne se coupe pas de ses arrières. Ping-pong. C'est déjà fini. Et vous êtes tous vainqueurs.
Merci beaucoup. Voilà, un match nul, ça arrive parfois dans les compétitions olympiques. Entre gentlemen, Jacques Henrich, vous signez donc Box, primé d'Issis de l'essai, c'est publié au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Quant à vous, Alberto Salcedo Ramos, vous êtes l'auteur de L'or et l'obscurité, publié chez Marchiali et, disons-le, traduit admirablement avec Le Swing de Cyril Gay.
Le ping-pong est un combat radiophonique qui se prépare en équipe. Et quelle équipe ? Aïssatou Ndoye à la rédaction, aux côtés de Jal Aleos, de Seam Boutata et de Lila Bozès, à l'interprétation simultanée. Bravo à Marcelo Brida qui vous a fait entendre la voix d'Alberto Salcedo Ramos. À la prise de son ce soir, Anthony Thomasson.